Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Et alors qu'on parle de la Chine, car elle est dans l'actualité, avec la rencontre encore en tout début de semaine de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, que s'est-il dit entre les deux hommes? Préparent-ils quelque chose ensemble alors que Poutine a décidé de déployer des armes nucléaires en Biélorussie? Actualité brûlante, donc inquiétante, alors que ces rapports internationaux, diplomatiques, politiques débarquent à l'Opéra de Paris. Cette semaine à Bastille a débuté Nixon in China de l'américain John Adams, une œuvre écrite en 1987, 2 ans seulement avant les événements de la place Tiananmen. Œuvre qui retrace la visite de Richard Nixon à Pékin pour y rencontrer Mao Tse-tung. Henry Kissinger, 99 ans aujourd'hui, était au cœur de cette visite. C'est en partie grâce à lui que les relations se sont détendues. Ce CNN opéra, comme on les appelle, une partition lyrique doublée d'un livret historique, arrive donc à point nommé. Je ne dévoile pas tout, mais on en prend plein la figure lors d'un témoignage projeté dans la salle d'un ancien prof de musique chinois, victime de ce qu'on a appelé la révolution culturelle. Nixon in Paris, on en parle avec mes invités. Bonsoir Gérard Araud.
Bonsoir.
Ancien ambassadeur de France auprès des Nations Unies et aux États-Unis, auteur de Henry Kissinger, le diplomate du siècle chez Talendier. Votre dernier livre, Nous étions seuls, histoire de la diplomatie de la France, 1919-1939, qui vient tout juste de paraître chez Talendier également. Bonsoir Yvan Alexandre.
Bonsoir.
Vous êtes metteur en scène, notamment en janvier dernier de Don Giovanni à l'Opéra de Versailles, librettiste, journaliste au mensuel Diapason et au Nouvel Obs. Bonsoir à David Grimal.
Bonsoir.
Qui est au téléphone avec nous, violoniste, directeur artistique de l'ensemble musical Dissonance. Yvan Alexandre, la genèse de cette œuvre.
Alors c'est assez atypique, c'est le metteur en scène, alors qui n'est pas le metteur en scène du spectacle qui a eu sa première hier soir, hein, c'est le metteur en scène de la première, donc 1987 je crois, qui a eu l'idée, qui a proposé au compositeur de traiter un tel sujet. Le compositeur lui-même n'était pas très chaud, déjà il n'avait jamais fait d'opéra, c'est son premier, donc il ne se croyait pas l'âme lyrique. Mmh. Il y a beaucoup de compositeurs comme ça qui n'ont pas tellement envie ou qui ne peuvent pas. Même Pierre Boulez, par exemple, voulait, mais n'a pas pu faire d'opéra. D'autres qui en font un, comme Debussy ou Messiaen, et d'autres qui ne font que ça, comme Verdi ou Wagner. En l'occurrence, lui, il pensait que ce n'était pas son métier. Et il s'est laissé convaincre et Peter Sellars, donc le metteur en scène de ce premier spectacle, l'a convaincu de traiter un sujet d'actualité pas brûlante. Il ne faut pas exagérer parce que l'opéra a été composé au milieu des années 80 et l'événement qu'il raconte, c'est presque une génération avant, c'est 72. Par la suite, ils ont fait leur deuxième opéra beaucoup plus chaud, si on peut dire, et a entraîné alors beaucoup plus de diatribes et de polémiques parce qu'ils traitaient un sujet beaucoup plus sordide, parce qu'il y a mort, terrorisme et d'une actualité beaucoup plus brûlante avec la famille dans la salle.
Restons sur Nixon in China.
Oui, oui, non, mais c'était pour dire qu'on était dans une actualité relative.
Voilà. Je le rappelle, et donc assuré par Gustavo Dudamel à la baguette, l'orchestre et les chœurs de l'Opéra National de Paris, avec Thomas Sampson, René Fleming, qu'on va entendre dans un petit instant, Zhang Bang Chang, Joshua Bloom et John Matthew Myers. Voilà, j'en oublie une, Kathleen Kim également. Excellente Kathleen Kim. Gérard Araud, cette rencontre en 1972, c'est quoi? C'est la folle idée de Kissinger de pouvoir réconcilier les États-Unis et la Chine de Mao Tse-tung?
Alors donc d'abord, c'est un incroyable coup de théâtre, hein, parce que Kissinger se rend au mois d'août 71 dans le plus grand secret à Pékin. Il va au Pakistan, là il dit qu'il est malade et un avion pakistanais l'amène en cachette à Pékin, il y rencontre Mao Tse-tung et surtout Chou En-lai, et ensuite il rentre à Washington.
Qui est le Premier ministre à l'époque.
Le Premier ministre, et il rentre à Washington, et là, Nixon intervient à la télévision en annonçant ce qui s'est passé, mais c'est la stupéfaction, parce que les deux pays sont considérés comme étant en guerre. Il y a eu la guerre de Corée, où il y avait des soldats américains et des soldats chinois, et la guerre du Vietnam, où il y avait des dizaines de milliers de Chinois au Vietnam pour soutenir le Nord-Vietnam, et surtout, c'est la Chine de la révolution culturelle, et pour les Américains, c'est des masses indistinctes, innombrables, qui crient mort aux USA, qui représentent le pire, c'est encore pire que l'Union soviétique, aux yeux des Américains. C'est donc un incroyable coup de théâtre. Et alors, derrière ce coup de théâtre, qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez dit, il y a le réalisme, c'est-à-dire il y a un triangle, finalement, URSS, Chine, États-Unis. L'URSS et la Chine sont en état quasiment de guerre. Hein. En 69, il y aura des batailles avec des dizaines de milliers de soldats à la frontière entre la Chine et l'URSS. Nixon et Kissinger, qui sont des réalistes, des anticommunistes forcenés, mais des réalistes, disent ah ben c'est le bon moment, les Chinois vont avoir besoin de nous face aux Soviétiques, et donc ils vont jouer ce jeu, et Mao va le jouer avec le même cynisme. C'est-à-dire, il dira un moment dans la visite à Nixon, il dira « bon, on va continuer à s'insulter, mais on sait bien qu'en réalité, on est alliés face à l'Union soviétique. »
Alors, je vous propose d'écouter, avant de donner la parole à David Grimal, qui patiente gentiment au téléphone, mais je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas, David Grimal. On va écouter un papier du reporter de Europe numéro 1, qui est à Pékin pour suivre cet événement, vous avez raison de le dire, Gérard Haraud. Jean Leclerc du Sablon, nous sommes le 24 février 1972.
Qui serpente dans la campagne enneigée du nord-ouest de Pékin, le président Nixon a fait ce matin ses premières remarques positives sur le déroulement de son voyage en Chine. Il a dit que son voyage valait la peine. Il a aussi exprimé l'espoir que l'un des résultats de cette visite pourrait être de développer les relations, les échanges entre les citoyens américains et les citoyens chinois. Bien sûr, a-t-il dit, ceci est une question différente des relations entre le gouvernement. Tout au long de cette demi-journée, il avait pu observer combien la technique chinoise, c'est-à-dire des milliers de bras, des milliers de pelles, des milliers de paniers et de balais, peut être dans certains cas aussi efficace que les techniques les plus modernes. Il avait neigé toute la journée hier, la nuit avait provoqué du verglas, mais ce matin, les 80 km de route étaient sèches, bien dégagées. Le président était très détendu. Il s'est fait photographier avec des petites filles qui jouaient par là. Et cela confirme l'impression de cordialité que l'on observe en ce quatrième jour de la semaine sino-américaine, tant du côté chinois que du côté américain. Et la conclusion qu'en tirent les observateurs, c'est qu'on semble être en voie de se mettre d'accord sur au moins le cheminement qui doit, en fin de compte, parvenir à l'établissement de ces pays séparés depuis si longtemps.
Voilà, donc, il y a quand même la technique est meilleure aujourd'hui hein, pour l'envoi des sons dans cette Chine, effectivement, où on sent d'ailleurs que ce correspondant, Jean Leclerc du Sablon, est muselé aussi, d'une certaine manière, il ne peut pas dire tout ce qu'il veut. David Grimal, cette apparition au répertoire de l'Opéra de Paris de cette œuvre de John Adams, c'est important parce que pour vous, la politique, le cinéma, la musique, évidemment, il y a des résonances, c'est important d'en parler.
Oui, alors la musique, si la politique est le plus grand des arts, la musique est de la politique également, puisque c'est une célébration, c'est une manière de mettre les gens en relation, de mettre les gens en communion, et la musique est très puissante, à tel titre d'ailleurs que certains régimes l'interdisent, et que dans l'histoire de la musique occidentale, il y a eu aussi, dans des moments d'obscurantisme religieux, des interdictions de certains intervalles qui symbolisaient le diable. Donc c'est vrai que la musique est un vecteur extrêmement puissant, qui est un vecteur d'idées politiques, un vecteur de propagande, comme on a pu le voir notamment avec Shostakovich, en Union soviétique, pour prendre un exemple que tout le monde connaît. Et c'est aussi une manière de relater l'histoire et de la regarder à travers ce prisme où on prend de la hauteur, je dirais.
Gérard Haraud, est-ce que cet opéra maintenant qui arrive, il arrive à point nommé, puisque, comme je le disais en introduction, on parle beaucoup de la Chine, on se demande dans quelle, vous avez tracé tout à l'heure une triangulation, celle de 1972. On ne peut pas dire qu'il y a une résonance, mais il y a des similitudes en ce moment. On parle du retour d'une guerre froide. Finalement, pour le spectateur qui va se rendre à l'Opéra de Paris, il va peut-être apprendre plus, il va plus avoir de background, comme on dit en bon français, avec cet opéra pour comprendre la situation actuelle.
Mais vous savez, il y a une nouvelle triangulation qui se met en place, mais cette fois-ci, ce sont les Russes et les Chinois face aux Américains. Dans la triangulation précédente, la Chine avait le rôle un peu mineur face aux États-Unis. En 72, le PIB chinois, c'est le dixième du PIB américain. La Chine est misérable. Aujourd'hui, eh bien, elle est l'élément fort du duo avec la Russie. Donc on est un peu dans un jeu comparable, mais cette fois-ci, c'est la Chine qui conduit la musique. Nous sommes entrés, et nous sommes en train d'entrer, dans une deuxième guerre froide. Il est très clair, entre la Chine et les États-Unis. Et du point de vue chinois, vous n'avez pas d'autre choix que, d'une certaine manière, soutenir la Russie, parce que la Russie est le seul allié de la Chine. Si vous voulez un autre parallèle, d'ailleurs, vous pouvez avoir le parallèle aussi d'avant 1914, celui de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne n'a qu'un allié, l'Autriche-Hongrie, et donc l'Allemagne est obligée de soutenir l'Autriche-Hongrie si l'Autriche-Hongrie est en danger. Ben pour la Chine, c'est un peu la même chose vis-à-vis de la Russie.
Yvan Alexandre, je le disais, il y a, pas au milieu, mais aux trois quarts, sans tout dévoiler, un vrai document, c'est-à-dire qu'on nous explique ce qu'a été la révolution culturelle de Mao Tse-tung avec les brimades de certains musiciens qui ont voulu apprendre la musique de Beethoven et de Mozart.
Oui, il y a une particularité à ce spectacle par rapport au précédent, et en particulier par rapport à celui qui a vu la création de cet opéra en 1987 et qui était venu déjà à Bobigny au début des années 90, c'est que le regard, alors l'œuvre est la même, le livret est la même, on entend la même chose, on ne voit pas tout à fait la même chose, puisque dans ce spectacle que vous avez vu, donc aussi, il y a pas mal de vidéos, il y a des archives. Des archives de la rencontre en question, des archives de la révolution culturelle, ce que les productions précédentes ne montraient pas, et alors plus encore, comme une espèce d'entracte en effet, un extrait d'un film qui avait eu un gros succès en 1989, je crois, qui s'appelle de Mozart à Mao, ou de Mao à Mozart, je ne me souviens plus, qui est en fait la visite en Chine d'Isaac Stern. Je pense que ça parlera à David, il a dû voir évidemment à David Grimal, il a dû voir ce film. Et alors on voit très peu Isaac Stern, mais on entend le témoignage d'un professeur de violon et qui raconte un peu ce qu'était... Le destin au début de la révolution culturelle,
il a été
des
enfermé
professeurs.
Dans une petite pièce.
Pas d'une petite pièce, sous l'escalier.
Un placard où il était nourri, mais ses jambes étaient atrophiées. C'était absolument épouvantable. Et on voit d'ailleurs les images un petit peu plus loin dans l'opéra, des bonnets d'âne comme ça, très 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 très
ça,
haut.
Ça, c'est la révolution culturelle.
C'est la révolution culturelle de Mao Tse-tung. David Grimal, pour rebondir là-dessus.
Oui, effectivement, c'est un film que j'ai vu... lorsque j'étais enfant, donc bien avant que je rencontre plus tard Isaac Stern, quand je suis allé prendre quelques leçons avec lui. Et c'est vrai que c'est un film qui est extrêmement marquant. Et on revient sur cette idée de la musique dangereuse pour le pouvoir, en fait, qui est le symbole de l'Occident qu'on veut mettre à terre. Et heureusement, depuis, les choses ont beaucoup changé, puisque nous avons 50 millions de pianistes en Chine, et oui, des merveilleux musiciens qui arrivent de partout. Donc il semblerait que la Chine ait absorbé notre musique occidentale dans la suite du Japon, de la Corée, etc., qui ont produit des musiciens extraordinaires. Donc l'histoire se retourne, et j'espère que cette musique empêchera peut-être un affrontement comme on l'a connu entre des blocs antagonistes.
Gérard Haro, lorsque effectivement on parle de ces brimades épouvantables, justement je disais, c'est pas mal de se les rappeler, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que il suffit de regarder son smartphone, on sait que c'est fabriqué en Chine, on n'a pas forcément l'image terrifiante de ce que ça a été.
Oui, je pense que ça fait partie d'une vision générale que, comme la Chine étant un monstre qui avance froidement, qui ne commet pas d'erreurs, où les Chinois ne prennent pas de vacances, n'ont pas de vie sexuelle, travaillent 20 heures par jour, etc. Vous voyez, et ils pensent en siècles, alors que nous, les Européens, nous pensons en jours. Mais pas du tout. Quand vous regardez l'histoire de la Chine récente, vous avez, avant même la révolution culturelle, vous avez eu le grand bond en avant à la fin des années 50, où on estime que plusieurs millions de Chinois sont morts d'une politique absurde d'industrialisation à marche forcée. Ensuite, nous avons eu la révolution culturelle, là aussi une violence avec, avec de nombreuses victimes. Donc la Chine est aussi un pays violent qui a sa violence interne. Et aujourd'hui, il ne faut pas, je dirais, magnifier la Chine. Il faut se rendre compte que c'est un pays qui a ses vulnérabilités comme nous. Elle commet des erreurs, elle traverse des tempêtes. Et c'est vrai que c'est pas mal de se rappeler cette révolution culturelle qui était il y a 50, 60 ans et qui a donné lieu à ces violences. Mais en plus, à ces violences absurdes, une sorte d'absurdité dans la violence qui prouve que voilà, la Chine, ce n'est pas l'adversaire que nous devons redouter. C'est un pays qui a aussi ses faiblesses.
Alors, tout cela est très, très bien relaté dans cette mise en scène actuelle à l'Opéra de Paris, où on voit effectivement les brimades, on voit beaucoup de choses, les dialogues entre Kissinger et Mao Tse-tung, tout ça est évidemment dans le livret. Donc tout ça est suivi à la lettre, j'allais dire. Et puis, il y a le personnage aussi de Madame Nixon, Pat Nixon, qui... Alors évidemment, comme toutes les premières dames, on la prend un petit peu à l'écart, on lui fait visiter le pays. Alors, elle est sublimement incarnée, je parle sous l'œil expert d'Yvan Alexandre, sublimement incarnée par René Fleming. On écoute. Cristallin de la voix, Yvan Alexandre, mais il y a un texte qui est extrêmement important en fait derrière.
Oui, et c'est pas seulement le texte, évidemment, c'est le texte est très important, surtout là dans l'air qu'on entend, qui est quand même, c'est un rôle exprès musicalement qu'on attend, on l'attend longtemps, hein,
c'est vrai.
Après l'entracte.
Deuxième acte.
Mais aussi, ça crée une forte dissymétrie dans l'extrême symétrie, puisqu'on a donc deux couples en fait. On a monsieur et madame Mao et monsieur et madame Nixon.
Exactement.
Et puis les deux premiers ministres. Alors
oui,
ça fait deux trios, Kissinger d'un côté et Chou En-Lai de l'autre. Et justement, la plus grande opposition finalement vient des femmes. C'est-à-dire que Mao est montré pratiquement comme un monument historique, récitant des pensées de Confucius,
oui,
au troisième degré,
oui, oui,
pratiquement plus un personnage politique du, ouais, tout, alors que la volonté politique, bras levé, c'est Madame Mao, c'est elle qui entraîne le peuple, c'est elle qui est le fer de cette lance. Et de l'autre côté, c'est le contraire. C'est Nixon qui fait son signe de victoire à tout propos, et la Première Dame, au contraire, qui représente la pacification, le calme, la modération. Et je pense que dans le déroulé de l'opéra, c'est plutôt une volonté lyrique, c'est-à-dire c'est bien joli de prendre ces sujets dans l'histoire, encore faut-il qu'ils soient intéressants à chanter. Et je pense que pour le compositeur, ça a été quelque chose de très attirant, cette opposition de cette Madame Mao qui est comme un cristal qui éclate dans le ciel, et à côté de cela Madame Nixon qui est cette onction merveilleuse.
En plus, aux yeux des Américains, ça dit quelque chose, parce que vous avez d'un côté un Nixon qui est un personnage torturé, qui est sombre, comme je l'explique dans mon livre sur Kissinger, qui passait ses soirées à écouter tout seul au fin fond de la Maison Blanche toujours Rachmaninov et Tchaïkovski.
Il était
pianiste en effet. Et vous avez Madame Nixon, Pat Nixon, qui elle est beaucoup plus solaire, qui essayait de protéger son mari parce qu'elle savait à quel point il avait des noirceurs en lui.
Mmh. Et d'ailleurs, on la voit, alors René Fleming, je parle encore une fois sur votre contrôle, mais il y a un côté un peu naïf quand elle est poursuivie par ce dragon là, on sent
il n'est pas bien méchant le dragon.
Non, non, mais c'est une symbolique, parce que c'est le faucon contre le dragon, ouais, évidemment, le faucon américain contre le dragon chinois, mais en fait la salle se marre quand bien on sûr, la voit, parce que c'est presque comique, c'est presque une bande dessinée.
Ah, quoi. C'est comme si elle était avec son Yorkshire, oui. C'est ça. Sauf que le Yorkshire fait 8 mètres. Mais effectivement, l'image finale, je ne sais pas, on a le droit de spoiler ou pas, mais l'image finale...
Ah ben, je ne sais pas, vous verrez ça avec les gens de l'Opéra de Paris.
L'image finale met des points de suspension très curieux, parce que moi, j'ai vu un faucon qui penche quand même, enfin il est pas très...
Mais c'était parce qu'il n'y a pas assez de place. Non,
je pense qu'il y a assez de place, l'Opéra Bercy c'est très très vaste.
Mais enfin, vous avez vu la taille du faucon.
Oui mais quand même, il penche un peu. Et par contre, non, au contraire, à côté de lui, le dragon, lui, s'endort. Je ne suis pas sûr que M. l'ambassadeur va nous dire que si le dragon
vous
est en train de s'endormir.
Vous avez vu des messages dans le pencher du faucon et dans l'endormissement
Ça finit par un dragon qui s'endort. Dragon. Je ne suis pas sûr que historiquement ce soit ce moment que nous vivons.
David Grimal, ça vous inspire quoi ?
De vous écouter ou l'histoire de la politique et de la musique ?
Non, mais c'est un sujet qui est complexe, puisqu'on allie la musique et la... Et vous utilisez, je crois, très souvent dans votre travail, justement, des différents points d'achoppement que sont justement la politique, le cinéma, la fiction, pour produire de la musique.
Moi, je pense qu'un artiste doit être au monde. Il se doit d'être au monde pour que son rôle soit complet. Il ne veut pas dire qu'il doit avoir un rôle politique, mais on fait partie de son histoire et nous avons une sorte de mission à remplir, d'essayer de rendre le monde un peu meilleur, je crois, puisque nous sommes porteurs de langages qui sont plutôt orientés vers la beauté et l'ouverture. Même si nous allons puiser au plus profond de la noirceur de nos âmes, parfois.
D'accord.
Et c'est vrai que l'opéra dit les choses, les montre, peut-être d'une manière plus évidente que la musique de chambre ou la symphonie qui s'adresse sans les mots et sans la vision à notre être le plus intime.
D'accord avec ça, Yvan-Alexandre.
Alors, il y a toujours eu une espèce de musicien, en particulier chez les interprètes, qui avait une forte... carrure politique. Il y a eu naturellement Mstislav Rostropovitch à l'époque de Solzhenitsyn, c'était un peu son bras musicien. Et aujourd'hui, il y a encore, même s'il est en très mauvaise santé, Daniel Barenboim, qui des personnalités comme ça qui transcendent complètement.
Il y a eu
Toscanini, il y a eu Yehudi Menuhin.
Barenboim avec l'orchestre à la fois palestinien et israélien,
oui,
il faut le rappeler.
Mais pas que. Non, mais ses discours à la Knesset ont été des scandales terribles. Enfin bon, il court le monde avec un message. Ça, c'est comme Yehudi Menuhin en son temps. Yehudi Menuhin qui a sauver littéralement Wilhelm Furtwängler du passage à tabac après la guerre. Mais c'est quand même, ça reste des exceptions et le rôle du musicien, le rôle de tous les artistes de toute façon, est toujours très ambigu. Il est toujours très ambigu. Dès qu'on donne la parole à quelqu'un, et David a raison de le signaler, c'est pareil au théâtre, si on donne la parole à Adolf Hitler au cinéma, tout de suite la question se pose, que faisons-nous ? Et le rôle de l'artiste est toujours très ambigu quand on aborde ce genre de sujet.
Gérard Haro, vous qui avez vu cette œuvre vraiment pratiquement tout au début, je crois, en
1988. Oui, la première à Washington, en tout cas.
Est-ce que c'est, j'allais dire, pour celui qui va voir à l'Opéra de Paris ce qui passe, Nixon in China, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça en 72 ?
Non, mais ça ne sait pas. Encore que... Ouais, ça me frappe, par exemple, lorsqu'il dit que vous avez un Mao Tse-Tung qui est... On a l'impression qu'il est à 30 000 pieds. C'est tout à fait comme ça que ça s'est passé. Ils sont allés voir Mao Tse-Tung, et Mao Tse-Tung, qui était au milieu de ses livres, de ses plumes, parce qu'il fait de la calligraphie chinoise, leur a fait un énorme morceau de Platon. En gros, je dis Platon parce que Kissinger, qui est tombé totalement sous le charme des Chinois, le compare en effet à Platon, disant des sortes de vous savez, il y a là, c'est Chuen Lai, il y a une phrase célèbre de cette visite. À un moment, Kissinger dit à Chuen Lai, mais que pensez-vous de la Révolution française ? Et Chuen Lai aurait répondu, il est encore trop tôt pour se prononcer. Vous voyez, donc il y a un jeu. Les Chinois, parce qu'ils sont intelligents, ont un peu joué sur une certaine naïveté, admiration des Américains. Parce que bon, le Mao Tse-Tung, il était en train de déchaîner la révolution culturelle. Et on sait que Chuen Lai a été atteint du cancer et que Mao Tse-Tung a ordonné de ne pas le soigner. Vous voyez, donc il faut quand même se rendre compte que Mao Tse-Tung, c'était pas du tout Platon.
Les relations de la Chine... entre la Chine et les États-Unis, vous l'avez répété tout à l'heure, ne sont plus du tout les mêmes. Est-ce que la prochaine visite, ou en tout cas la prochaine rencontre Joe Biden-Xi Jinping, elle sera dans quel contexte ?
bien, il faudrait qu'il y ait une rencontre entre les deux chefs de l'État, parce que c'est ça qui est inquiétant. Vous avez maintenant les relations internationales pour les 20 ans qui viennent seront, structurées autour de la relation sino-américaine, qui devient la relation de loin la plus importante.
Ça, il faut s'habituer à ça. Hein.
Il faut s'habituer à ça, et naturellement, les Américains vont venir nous voir, et viennent déjà nous voir, pour nous dire « choisissez votre camp ». Donc, pour les Européens, qui naturellement vont se diviser, déjà les Néerlandais se sont alignés sur les Américains du point de vue commercial. Donc, nous allons avoir à répondre à cette question. Et le président de la République doit se rendre, je crois, au printemps, doit se rendre bientôt à Pékin. Donc, ce sera aussi pour lui...
Très rapidement. Là,
voilà. Ouais. Pour lui, une manière de répondre à cette question. Donc, les Américains, pour le moment, vous savez, quand on dit il y a une confrontation entre deux grandes puissances, on dit on a besoin de endiguement, containment, et d'engagement. Et donc, pour le moment, on a l'endiguement. Les Américains montent en puissance militaire dans l'Asie, en Asie. Hein, lorsque l'affaire des sous-marins australiens, les Français ne sont qu'une victime collatérale. En réalité, c'est pour donner des sous-marins aux Australiens capables de s'opposer à la Chine. Donc, on a l'aspect militaire. On a besoin d'un aspect politique. On a besoin d'un dialogue politique entre les deux superpuissances. Parce que sinon, nous sommes à la merci d'un incident en mer de Chine.
John Adams, Yvan Alexandre, a toujours été, impliqué politiquement. Il avait toujours voulu faire passer un message. Vous avez parlé de l'opéra qui a suivi celui-ci.
Oui, alors lui, je ne sais pas, en fait, il s'est toujours défendu. Il a défendu ses bébés, mais il s'est toujours défendu, lui, d'être vraiment dans ce combat-là. Et je pense qu'il a fait une espèce de paire, presque un couple, avec Peter Sellars, le metteur en scène, qui n'était pas le librettiste. Hein. C'est une librettiste très poétisée. D'ailleurs, Nixon Inchana commence très réaliste. Et vous avez vu au deuxième acte, c'est déjà ce ballet, le détachement féminin des gardes rouges. Et ensuite, c'est une grande rêverie. C'est de moins en moins réel. En fait, on part d'un événement réel pour aller de plus en plus vers une rêverie qui n'en finit pas. Après le deuxième opéra, La mort de Klinghoffer, là, on traite un sujet beaucoup plus scabreux, qui est donc l'assassinat sur un bateau à quai d'un handicapé américain juif par un commando
palestinien. En jetant le fauteuil roulant à la mer. C'est atroce.
Et on a fait un opéra là-dessus, qui est d'ailleurs un opéra qui a été créé en Europe, lui, hein, mais qui a été un gros problème lors de sa réception aux États-Unis, mais où il est encore joué assez régulièrement. Et ensuite, il a développé beaucoup sous l'influence de Peter Sellars. Mais maintenant qu'il n'y a plus Peter Sellars, son dernier opéra, John Adams a vu son tout dernier opéra créé très récemment. Et alors là, il n'y a plus de Peter Sellars. Et abracadabra, cette actualité disparaît. C'est une adaptation d'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Donc je pense que oui, il était engagé, mais sous influence très nettement.
Merci messieurs, merci d'avoir participé. Courez à l'opéra, voir Nixon in China, dont on entend un dernier extrait. David Grimal qui a... des très beaux disques en ce moment aux éditions de la Dolce Volta. Gérard Rau, on lit vos deux livres. Henry Kissinger, vous en avez parlé, Le diplomate du siècle, et aussi surtout le dernier, Nous étions seuls, histoire diplomatique de la France 1919-1939. Merci à tous, très bonne soirée. Demain pour l'information, Alexandre Lemaire à 5h et Dimitri Pavlenko à 7h. C'est à vous Lionel Rousseau.
Merci Pierre Devineau. Dans quelques instants, l'actualité du foot à l'étranger avec nos correspondants permanents à travers le monde. On vient évidemment sur l'équipe de France, la victoire contre les Pays-Bas et la rencontre de demain à suivre sur Europe 1 contre l'Irlande avec encore une fois de jolis dégagements du capitaine Mbappé. Puis nous suivrons en fil rouge Portugal-Luxembourg, un très joli programme.
Très bonne soirée.